Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur l'identité du croyant en Christ. C'est notre 17e émission et je bénis grandement le Seigneur pour cela. J'espère que vous êtes en train d'aimer, que vous êtes en train de découvrir, que vous êtes en train de vous renouveler dans votre intelligence et que le diable vit sa défaite de jour en jour depuis que vous avez commencé à suivre ses enseignements. L'identité du croyant en Christ. Comme je le disais, c'est notre 17e émission. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous prions pour rendre gloire à Dieu, pour le dédier ces minutes qui vont suivre. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, merci. Merci pour ton salut, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, nous te dédions ces 30 minutes qui vont suivre, ce reste des 30 minutes qui vont suivre. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Ouvre-nous les yeux du cœur, Seigneur. Fais-nous du bien. Enseigne-nous, parce que lorsque tu parles, tu ne parles pas pour le plaisir de parler, mais tu parles pour un but: redresser, encourager, délivrer, sauver, bénir, éclairer notre intelligence. Père, merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'identité du croyant en Christ, notre 17e émission, ou bien vous pouvez l'appeler le chrétien. L'identité du croyant en Christ, le croyant en Christ et le chrétien. Et nous sommes en train de découvrir quelle est notre identité. Nous avons défini l'identité comme ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne, un groupe de personnes des autres. C'est aussi la possibilité de regrouper plusieurs êtres, plusieurs personnes sous un même concept, une même idée, une même valeur, regrouper une catégorie de personnes, un groupe de personnes possédant les mêmes caractéristiques. En fait, la partie que je préfère le plus, c'est possédant les mêmes caractéristiques. Et nous avons dit que le croyant en Christ a une identité. Il est cette personne, elle est bénie. Cette personne, elle est rachetée de la malédiction de la loi. Cette personne est délivrée de la puissance des ténèbres. Cette personne est plus que vainqueur. Cette personne est pardonnée en Jésus-Christ. Ça, c'est un peu le résumé de ce que nous avons vu dans les émissions précédentes. Nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Nous sommes délivrés en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes triomphants en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Et une identité est une caractéristique que nous retrouvons. Les caractéristiques que nous retrouvons dans le croyant doivent être les mêmes chez tous les croyants. Il n'y a pas de confusion possible. Il n'y a pas de chrétien moins chrétien qu'un autre. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Ou on est croyant en Jésus-Christ ou on ne l'est pas. Ou on est béni ou on n'est pas béni. Mais on est chrétien en Jésus-Christ. Et le chrétien en Jésus-Christ, la Bible nous a dit clairement que le chrétien est béni. Si vous avez raté les émissions précédentes, contactez notre ministère. Je donnerai le numéro et le site internet à la fin de cette émission pour que vous puissiez avoir nos coordonnées. Comme ça, vous allez commander cette série d'enseignements, les CD si vous souhaitez. Le chrétien est une personne bénie, pardonnée en Jésus-Christ, délivrée de la malédiction de la loi, rachetée de la malédiction de la loi, rachetée du royaume des ténèbres. Un triomphant, un plus que vainqueur. Et nous avons dit aussi qu'il n'est pas possible que le chrétien américain fasse une expérience différente, bibliquement parlant, du chrétien européen, du chrétien africain, du chrétien asiatique. Non! Puisque nous avons défini comme l'identité comme le fait de regrouper plusieurs personnes ayant les mêmes caractéristiques. Donc, vous et moi, nous avons les mêmes caractéristiques que tout autre chrétien, tout autre vrai chrétien, si je peux préciser, dans le monde. Vous et moi, nous possédons les mêmes caractéristiques des chrétiens de l'Église primitive, parce que nous avons le même Sauveur et le même Seigneur. Il n'y a pas de différence. Il ne doit pas y avoir de différence. Bibliquement parlant, ça ne s'explique pas. Vous ne pouvez pas dire que non, parce que moi, parce que je suis bantou, je suis à la forêt équatoriale, je suis moins béni que celui qui est à New York, le chrétien qui est à New York. Le chrétien qui est à Tokyo, le vrai chrétien, le chrétien qui est à Tokyo, le croyant en Christ qui habite Tokyo, ne peut pas dire qu'il est plus béni que le chrétien qui est en Thaïlande. Ça ne s'explique pas. Pourquoi ? Parce que nous servons le même Sauveur, le même Seigneur, nous sommes sauvés par le même Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, en Christ, en Jésus-Christ. Donc nous avons les mêmes attributs, nous avons les mêmes caractéristiques. Et ma prière au plus profond de mon cœur, et je crie vers Dieu, et que lorsque vous entendez ce message sur l'identité du croyant, que ça vous change, que ça vous révolutionne. Pourquoi ? Parce que même si vous avez les attributs et les caractéristiques d'enfant de Dieu, Satan peut vous tromper et vous faire vivre dans une défaite qui n'est pas la vôtre. C'est très important. Aujourd'hui, on peut rencontrer des chrétiens qui sont en train de mourir, jeunes, parce que Satan leur a fait croire que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Les hôpitaux sont remplis d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais dont la conscience est chargée. Ils sont troublés, ils sont traumatisés par le diable qui leur remontre leur vie passée. Certains ont du mal à avancer dans la vie, ont du mal à vivre la gloire de Dieu, à faire des miracles avec Dieu, parce que Satan leur a fait croire qu'eux ne sont pas dignes de ces choses. Écoutez, il n'y a aucun chrétien qui est digne de quoi que ce soit de la part de Dieu. Du reste, la Bible dit que tout nous est accordé par grâce, absolument par grâce. Lisons dans Éphésiens, juste pour vous prouver ce que je suis en train de dire. Éphésiens 2, verset 8. Vous y êtes ? Je disais Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sauver, salut, regroupe tous les noms rédempteurs de Dieu, absolument tous les noms rédempteurs de Dieu. Donc c'est par grâce que vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est par grâce qu'on le reçoit. Et si on l'a reçu sans le mériter, parce que nous avons simplement reconnu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un Sauveur, il vient dans notre vie. Alors pourquoi lorsqu'il vient dans ma vie, pourquoi si Jésus-Christ vient dans ma vie, il serait moins Dieu que s'il entrait dans la vie d'un Américain? Pourquoi Jésus entrant dans la vie d'un pygmée, par exemple, dans la forêt équatoriale, loin de la civilisation, serait moins Dieu que s'il entrait dans la vie d'un Quinois, d'un Brazzavillois, d'un Ivoirien, d'un Kenyan, d'un Sud-Américain, d'un Américain, du Nord, d'un Européen, d'un Français, d'un Belge, d'un Roumain, d'un Espagnol? Pourquoi est-ce que Jésus serait moins Dieu? Ou en d'autres termes, pourquoi si un pygmée devient chrétien, devient croyant en Christ, il aurait moins de caractéristiques, moins d'attributs, ou il aurait une identité moindre que les autres qui sont dans la civilisation, qui sont entre guillemets dans une certaine civilisation? Pourquoi? Ça ne s'explique pas. Parce que ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges du diable. Dieu nous enseigne au travers de la Bible qui nous sommes en Jésus-Christ. Et j'ai prié Dieu de tout mon cœur, comme je l'ai dit, que ces enseignements vous aident à comprendre qui vous êtes en Jésus-Christ, ce que vous possédez en Jésus-Christ et ce que vous pouvez faire en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Nous devons connaître Dieu. Nous devons l'écouter. Romains 10, Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi vient de ce que Christ nous a dit. La foi vient de ce que la Bible nous dit. Parce que Jésus est la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle au travers de la Bible. Et si vous voulez avoir confiance en ce que Dieu a fait pour vous au travers de Jésus-Christ, la moindre des choses, c'est de l'écouter lui d'abord. Pas d'écouter le monde. Même pas d'écouter d'abord les pasteurs, même pas d'écouter d'abord les églises, d'écouter ce que Dieu dit d'abord dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous dit que nous sommes saints en Christ. Lisons par exemple Éphésiens. Éphésiens, commençons par 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 1, verset 1. La Bible dit que nous sommes saints en Christ, nous les croyants. Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la Caïe. À tous les saints, vous voyez, Paul qui écrit aux Corinthiens, dit qu'ils sont saints en Jésus. Saints. Lisons Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse. Paul dit, tous ceux et toutes celles qui ont reçu Jésus-Christ dans la ville d'Éphèse sont saints. Paul ne dit pas que les saints sont les prédicateurs de l'Évangile. Paul ne dit pas les saints, ce sont des hommes et des femmes qui sont morts et dont on a reconnu le service pour Dieu. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul ne dit pas que les saints sont une catégorie d'hommes et de femmes dans l'église de Jésus-Christ qui sont uniques, ils sont particuliers, ils ont un don. Comme dans certaines communautés, on parle d'un très saint. Non, ce monsieur est très saint. Bibliquement, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. J'ai même lu quelque part un homme de Dieu vivant qui a été traité de 3 fois saint. Un père très saint. Non, ce n'est pas vrai. En Jésus-Christ, nous sommes tous saints. C'est quoi être saint en des termes bibliques? Eh bien, être saint, c'est, il est vrai, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, mais ça a la signification d'être mis à part pour Dieu. Le saint, en Jésus-Christ, c'est celui qui a été mis à part pour Dieu. C'est celui qui a été retranché du monde pour Dieu. C'est celui qui a été consacré pour Dieu. Donc, son but est de servir Dieu. Et sachez que l'on peut très bien servir Dieu en faisant du commerce. On peut servir Dieu dans le ministère. On peut servir Dieu dans sa famille. On peut servir Dieu en étant une femme mariée. On peut servir Dieu dans les études. On peut servir Dieu dans l'armée. On peut servir Dieu dans la police. On est consacré à Dieu. On n'a qu'un seul Dieu, qu'un seul Sauveur, qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Dès l'instant, cette définition s'applique dans votre vie, en fait, vous êtes saint en Jésus-Christ. Quand Dieu vous regarde du haut du ciel, il vous dit, celui-là, il est saint. Bien sûr, cet état de sainteté, nous éloigne du péché. C'est très important. Cet état de sainteté nous éloigne du péché. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et être en même temps dans le péché. Je ne dis pas que le saint est quelqu'un qui est parfait. Non. Mais puisqu'il s'est consacré à Dieu, puisqu'il sert Dieu, le péché n'est pas un jeu chez lui. Le péché n'est pas une seconde nature. Le péché n'est pas son style de vie. Rappelez-vous, saint, il est mis à part. Revoyez toute l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont servi Dieu. Que ça peut... David, l'homme selon le cœur de Dieu, était-il parfait? Non. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Lisons Abraham. Lisons la vie d'Abraham, par exemple. Ressouvenons-nous de la vie d'Abraham. Était-il parfait? Non. Non, Abraham n'était pas parfait. Plusieurs fois, il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Mais il est considéré comme étant un saint en Jésus-Christ. Il est considéré comme étant un saint. Pierre, qui a trahi Jésus-Christ, on le considère comme étant un saint, bibliquement parlant, parce qu'il s'est consacré à Dieu. Il s'est consacré à Dieu. Dans Colossiens 1, verset 1, Paul dit ceci. Enfin, la Bible nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Trois fois, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Pas par sa propre volonté. Et le frère Timothée, il écrit aux saints et fidèles en Christ qui sont à Colosse. Donc tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus-Christ dans la ville de Colosse, Paul les classifie comme étant des saints. Ils ne sont pas parfaits. Relisez les écritures sur les lettres. Vous allez voir que Paul parle certaines fois de défaillance qu'on rencontre parmi ces communautés. Mais il dit qu'ils sont saints. Donc notre position en Christ fait que nous soyons saints devant Dieu. Non pas parfaits, mais perfectibles. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus saint que moi. Et il n'y a pas de moins saint que vous. Qu'on ne vous trompe pas, que tel il est très saint, que tel il est hautement saint, que tel il est profondément saint. Non, si vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de par votre position en Christ, vous êtes saint. Donc, voilà pourquoi nous pouvons dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Parce que si vous êtes pardonné en Jésus-Christ du péché, vous devenez saint devant Dieu. Vous devenez consacré, vous êtes mis à part pour Dieu. Vous êtes retranché du monde pour Dieu. Donc tous ceux et toutes celles qui ont dit non au monde, mais qui ont dit oui à Jésus-Christ, sont saints de position. C'est très important, saints de position. Que l'on ne vous trompe pas, que l'on ne vous dise pas qu'un tel est plus saint qu'un autre, que le saint c'est celui qui... C'est d'abord quelqu'un qui a vécu une vie ordinaire, et puis quand il est mort, une certaine communauté lui a reconnu le titre de saint. Non, non. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, même si votre église vous mettait à la porte, mais si Dieu vous approuve, si Jésus-Christ est toujours votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes saint en Jésus-Christ. Même si on ne vous connaît pas. Même si on ne vous connaît pas. Ceci me rappelle un extrait d'un livre que j'ai entendu parler d'un homme qui a eu une vision du ciel. Et Jésus lui montrait les différents trônes de ceux et de celles qui vont régner avec lui. Alors, il voyait des hommes et des femmes dont il n'avait jamais entendu parler. Et Jésus commençait à relater la vie de certaines de ces personnes. Il disait, regarde un tel. Cette dame a quitté son pays avec son propre argent et allait dans telle tribu pour évangéliser. Personne n'a jamais su l'existence de cette femme. Et bien aujourd'hui, elle est assise à mes côtés. Et elle attend la récompense que je vais lui donner. Un saint. Ce n'est pas parce qu'on ne vous connaît pas que vous n'êtes pas saint. Ce n'est pas parce que votre communauté ne vous reconnaît pas que... Vous n'êtes pas saint. Si vous êtes en Jésus-Christ, Dieu vous reconnaît comme étant saint. Et je pense que c'est le plus important. Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints exercer l'hospitalité. Paul parle de soutenir les saints. Écoutez, ils sont vivants. Comment est-ce qu'on peut soutenir, pourvoir aux besoins des hommes et des femmes qui sont morts? Paul parle de vivants. Pourvoyez aux besoins des saints. Qui sont les saints? Ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et le saint est une, et la sainteté est une identité du croyant en Christ. Hormis le fait qu'il est pardonné, béni, racheté de la malédiction de la loi, délivré de la puissance des ténèbres, délivré du péché, il est saint de par sa position en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je peux vous encourager, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, quoi que vous ayez fait avant cette émission, si vous avez demandé pardon à Jésus-Christ, si Jésus-Christ vous l'avez accepté comme sauveur et seigneur personnel, vous pouvez vous considérer comme étant un saint en Jésus-Christ. Dites-le, vous êtes saint en Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Parce que si on vous traite de menteur, ça veut dire que la Bible est en train de mentir. Parce que Romains 12, verset 13 dit « Pourvoyez aux besoins des saints ». Ce sont des êtres humains, ce sont des hommes et des femmes qui sont vivants. Paul les reconnaît, écoutez. Paul, ce n'est pas n'importe qui, si je puis dire ainsi. C'est quand même un homme qui a écrit le deux tiers du Nouveau Testament, qui nous a enseigné sur des grandes vérités de l'Église, corps de Christ. Et Paul nous dit, pourvoyez aux saints. Donc il parle des êtres qui sont encore vivants. Des gens qui sont vivants. Donc on peut être vivant et saint. Cela est tout à fait biblique, si je puis dire. Mais comment est-ce qu'on peut être vivant et saint en ayant Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel? Je tiens encore à insister, les saints ne sont pas des hommes et des femmes qui sont morts. Les saints sont aussi des personnes mortes. Mais il y a des saints aussi qui sont vivants. Paul peut être considéré comme un saint. Gloire à Dieu. Pour Paul, pour notre époque d'aujourd'hui. Pierre qui est mort peut être considéré comme étant un saint. Gloire à Dieu. Mais quand Paul ici dit, pourvoyez aux besoins des saints, c'est quel type de saints? Ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants? Ceux qui sont vivants. Donc, en Jésus-Christ, moi Raphaël, je suis saint. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes saint. Ça fait partie de votre identité. Rappelez-vous, sainteté, mise à part pour Dieu, retranché du monde pour Dieu, consacré au service de Dieu. Et le service de Dieu, ce n'est pas seulement la prédication. Ce n'est pas seulement être pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre, non. Le service de Dieu aussi, c'est dans le ménage, c'est dans le commerce, c'est à l'armée, c'est à la police, c'est dans le domaine politique aussi. On peut être saint en Jésus-Christ en servant Dieu, mais en faisant une carrière dans l'armée. C'est possible, c'est biblique. Paul parle de pourvoir aux besoins des saints. Ces hommes et ces femmes sont vivants. Ils ne sont pas morts. Romains 15, verset 25. Romains 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. En fait, j'essaie de vous montrer que le saint, ce n'est pas quelqu'un de spécial comme le monde veut le faire croire. Il veut dire, ok, vous êtes tous dans l'église de Jésus-Christ, mais vous n'êtes pas tous saints. C'est ça que le monde veut faire comprendre aux gens. Non, ayons la conception, ayons la vision biblique de ce que Dieu appelle un saint. Qui Dieu appelle un saint? Celui qui est mis à part pour Dieu. Celui qui est retranché du monde pour Dieu. Celui qui est consacré à Dieu. Le saint, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel. Sauveur, comme celui qui vous a sauvé du monde. Seigneur, comme celui qui dirige votre vie. Vous voyez? Il est consacré au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes consacré au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes considéré comme un saint, selon la Bible, selon Dieu. Et c'est le plus important. Je n'ai pas besoin qu'une communauté me reconnaisse, moi, Raphaël, comme étant un saint. Non, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de l'approbation de Dieu. Parce que du reste, c'est devant Dieu que je vais rendre compte. C'est à Dieu que je vais rendre compte. Donc si vous ne me reconnaissez pas comme étant un saint en Jésus-Christ, c'est votre problème. C'est votre droit. Mais moi, je vous reconnais, vous, qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, comme étant des saints, puisque la Bible vous appelle des saints en Jésus-Christ. Et les saints, comme je l'ai dit encore, comme je le dis encore, je le répète encore, les saints ne sont pas seulement des personnes mortes. On peut être vivant et être saint, au service de Dieu. Au service de Dieu. Lisons Éphésiens 6. Non, je pense que pour aujourd'hui, nous allons limiter à Romains 15, verset 25. Saint en Jésus. Vous pouvez être saint en Jésus. C'est très simple. Comment ? Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Si Jésus n'est pas votre Sauveur, vous n'êtes pas saint. Et l'opportunité vous est donnée aujourd'hui de recevoir le pardon de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la sainteté de Dieu dans votre vie, au travers de Jésus-Christ. C'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour ma rébellion. J'accepte Jésus-Christ maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je fais ce que le sang de Jésus-Christ me purifie maintenant de toute forme de péché. Et que maintenant, je suis saint en Jésus. Saint de position. Je suis consacré à Dieu. Je suis retranché du monde pour Dieu. Je suis mis à part pour Dieu. Et je m'engage maintenant et jusqu'à la fin de ma vie à suivre Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie. Je crois et je confesse que maintenant je suis un enfant de Dieu. Et je te remercie et j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, vous êtes devenu saint. Vous êtes béni en Jésus-Christ. Vous êtes saint en Jésus-Christ. Vous êtes délivré du royaume des ténèbres. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes triomphant en Jésus-Christ et Dieu vous connaît. Dieu vous appelle par votre nom. Et lorsque Dieu vous regarde au travers de Jésus-Christ, il vous voit saint. Pour toute question spirituelle, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au numéro plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, l'identité du croyant en Christ. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.